Chapitre 4. Escrocs ou bienfaiteurs. Des loups en vêtements de brebis. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous prenez aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps vous faites de longues prières pour vous faire remarquer. C'est pourquoi vous serez jugés d'autant plus sévèrement. Ce reproche est d'une étonnante densité. Nous pouvons y discerner quatre éléments. 1. Vous dérobez argent et biens au nom de Dieu. Un pasteur africain, âgé et hautement respecté, soulignait devant un parterre de près de 2000 responsables venus de plusieurs pays et continents les déviances apparues dans de nombreux milieux chrétiens en ce domaine. La mendicité évangélique, qui consiste à harceler de demandes financières tous ceux qui passent sur notre route, plutôt que de travailler avec sérieux et de dépendre de Dieu. Le mensonge prophétique, plus subtil mais plus grave, qui manipule son prochain par de prétendues révélations. Dieu m'a dit que tu devais. Dieu m'a montré que tu étais pour moi. J'ai rêvé que tu m'apportais. Conformément à Ecclésiaste 5, verset 6. Après avoir dénoncé bien d'autres pratiques douteuses sur le plan financier, cet homme réputé ajoutait: si vous gagnez des membres pour l'argent, vous ne bâtissez pas une église, mais une poubelle. La générosité est une caractéristique du royaume de Dieu. Elle doit se pratiquer fidèlement, mais aussi librement et joyeusement. L'esprit religieux, à l'inverse, manipule, trompe, flatte, culpabilise. Sa motivation est égocentrique, animée par l'amour de l'argent ou la crainte de manquer du nécessaire. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus, car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit: vous êtes des gens qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. Luc 16, versets 13 à 15. 2. Vous agissez ainsi envers les plus faibles jusqu'à ce qu'ils soient complètement dépouillés. La veuve et tous les affligés en général sont insécurisés et vulnérables. Jésus y est particulièrement sensible. Il ressuscite le fils de la veuve de Naïn et il souligne la générosité de celle qui a donné de son nécessaire. Il raconte l'histoire de la veuve importune qui, finalement, obtient justice. Les pharisiens de tous les temps et de toutes les cultures, eux, profitent de la fragilité des plus faibles pour dévorer leurs maisons. C'est affreux, mais c'est ainsi. Que de scandales financiers l'amour de l'argent, sous couvert de religiosité, ne produit-il pas? Dans ce domaine encore, l'opposition entre l'esprit religieux et l'esprit saint est totale. Cessez de m'apporter des offrandes. J'en ai horreur. Cessez vos célébrations. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter. Cessez de faire le mal. Apprenez à bien faire. Préoccupez-vous du droit des gens. Tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Ésaïe 1, versets 13 à 17. 3. Vous fatiguez Dieu et les hommes par des prières et des cérémonies interminables et hypocrites. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Matthieu 6, versets 5 et 7. Dieu peut-il trouver une prière longue? Oui. Que tes paroles soient peu nombreuses, disait déjà l'Ecclésiaste à ce sujet. Conformément à Ecclésiaste 5, versets 1 à 2. Si, sur le plan individuel, nous sommes exhortés à prier sans cesse, c'est sous la direction de l'Esprit-Saint, de manière vivante, constructive et sous des formes variées, et non en boucle comme une litanie devant un Dieu insensible. Sur le plan collectif, il est de la plus haute importance d'apprendre à écouter, à être concis dans nos interventions et à se taire, conformément à 1 Corinthiens 14, versets 26 à 33. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler. Jacques 1, verset 19. Quelqu'un a dit, avant de parler, assure-toi que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Celui qui préside une rencontre quelconque, tout comme ceux qui prêchent, témoignent ou font des annonces, devraient être sévères à leur encontre. Terminez votre message quand les gens voudraient encore vous entendre. Terminez vos annonces alors que le public pourrait encore en retenir. Et surtout, terminez vos réunions avant que chacun intercède secrètement pour que vous vous taisiez enfin. Dans les cours que je donne sur la communication publique, présidence, témoignage, prédication, je pose la question suivante à mes élèves. Qui parmi ceux qui sont mariés s'est ennuyé à son propre mariage? Il peut arriver qu'une ou deux mains se lèvent. Je demande ensuite à tous, qui s'est déjà ennuyé en assistant à un mariage? Rares sont ceux qui ne lèvent pas la main. La conclusion s'impose, et nous ne devrions jamais l'oublier. Ceux qui sont au cœur de l'action ne voient pas le temps passer, alors que ceux qui y assistent peuvent terriblement souffrir de longueurs, de rajouts et d'autres parenthèses sans fin. Dieu, lui, n'est jamais ennuyeux. Si un homme l'est, tout en prétendant être son porte-parole, il s'abuse lui-même. Une personne aura deux annonces à faire qui ne devraient guère prendre plus de 60 secondes, pourtant rien ne pourra lui faire lâcher le micro avant que 20 minutes ne soient écoulées. Parler en public ne consiste pas à dire tout ce qui nous passe par la tête, mais à choisir le meilleur et l'indispensable. Ce n'est pas une question d'âge, car il est possible d'avoir 14 ans et d'ennuyer tous les adolescents réunis par une présidence médiocre et fatigante. Si vous n'êtes pas particulièrement doué en communication et que vous deviez cependant assumer une tâche en rapport, je vous en supplie, soyez bref. Un orateur moyen qui est concis progressera, mais le même orateur qui ne sait pas conclure torturera son auditoire. Peu de fidèles accepteront ce régime des années durant. Un groupe de prière devait être lancé dans une région franco-belge. En début de soirée, 25 personnes se retrouvèrent dans un grand salon privé. Proposition fut faite de faire connaissance. La première personne dit quelques mots sur son cheminement de foi. La deuxième se fit un peu plus précise. La troisième dépassa déjà les 5 minutes de parole, et, peu à peu, ce qui était pétillant et intéressant devint inquiétant. Comme le responsable n'eut pas le courage de présider, croyant que ce serait une offense d'interrompre qui que ce soit, la réunion se termina par la 25e présentation à 1 heure du matin, de quoi écœurer la majorité et tuer le mouvement dans l'œuf. Vous souvenez-vous du sketch de Mr. Bean à l'église? Ce comique anglais caricature l'ennui et l'effet soporifique qu'il y subit. Pour ma part, quelque temps après l'avoir vu, j'ai assisté à une cérémonie de consécration non loin de chez moi. Je dois être honnête, c'était bien pire que le sketch. À mourir d'ennui. Le terme n'est pas trop fort quand on pense aux multitudes qui ont cessé de fréquenter l'Église et se sont refroidies dans leur foi pour cette raison. On a d'ailleurs retrouvé, gravé sur un banc, « Ici, je suis mort d'ennui ». Aucune longueur ne devrait avoir place dans une rencontre qui se réclame de Christ, ni dans une bénédiction, ni dans les annonces, ni dans la prière, et encore moins dans le témoignage ou la prédication. Une réunion chrétienne doit ressembler à un festin d'où l'on ressort rassasié, non dégoûté. Bien entendu, ce qui fatigue Dieu en premier lieu, c'est la religiosité hypocrite. Mais les moulins à paroles, bien intentionnés, font également un dégât considérable. Qui parle trop cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Proverbe 10, verset 19. Matthieu 12, verset 36. Contrairement à un discours en vogue, le réveil dans certains pays africains n'est pas un passe-droit qui permet d'ennuyer le public durant 5 heures. Il est tout aussi pénible d'écouter un discours fastidieux en Europe qu'en Afrique, et le fait d'avoir la peau noire ou blanche n'y change rien. Si les fidèles se réjouissent de longues rencontres quand le souffle de Dieu est présent, c'est à cause de la beauté et de la puissance qui en émanent. Exhorter un auditoire, n'importe où dans le monde, à assumer encore plus de réunions assommantes sous prétexte qu'en Afrique, les gens l'acceptent avec zèle, n'est rien de plus qu'un mensonge. À l'autre extrême, nous retrouvons nombre de personnes qui insistent et colportent à tout vent qu'un message ne doit jamais dépasser 10 à 12 minutes sous prétexte que l'être humain ne peut se concentrer plus longtemps. Logiquement, ces gens devraient manifester devant tous les établissements scolaires et universitaires de la planète, car les leçons dépassent cette durée et se suivent à un rythme soutenu. De plus, il n'est pas du tout certain que chaque cours soit découpé en sections variées, comme ces mêmes personnes le prétendent, pour justifier leurs propos. Dans la mesure où la qualité est présente, un pasteur devrait au moins bénéficier de l'attention que nous accordons à un professeur d'histoire, de sciences ou de géographie. Je comprends cependant qu'une personne, ayant souffert toute sa vie d'orateurs qui ne savent pas s'arrêter, puisse ériger de telles règles pour se protéger de tant d'abus. 4. Vous êtes si fier et si aveugle sur votre conduite que vous faites tout cela en attirant un maximum d'attention sur vous-même. Vous souvenez-vous de l'histoire de ces deux bambins qui observaient un gros monsieur qui se pesait devant eux? L'aiguille de la balance fit un tour complet et s'arrêta sur 5 kilos. L'un des enfants, s'adressant à l'autre, s'exclama: Il est creux! Comme dans le songe évoqué plus haut, Dieu pèse les personnages importants à leurs propres yeux. Ils sont fiers et en imposent autour d'eux, mais Dieu les trouve légers. En voici quelques raisons. Ils mentent continuellement pour sauver la face. Ils sont persuadés d'être meilleurs que les autres. Ils sont envieux et jaloux. Ils courent après les titres et se battent pour les obtenir. Ils ne font les choses que s'ils en retirent un bénéfice. Ils sont longs, ils sont bruyants. L'homme spirituel. Son service est pur de tout calcul. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Sa prière n'est pas destinée à être admirée, mais à être exaucée. Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Matthieu 10, verset 8, Jean 11, verset 41 et 42.